Mirasa Mirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous nous retrouvons pour la rétrospective de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Il s'agit des nouvelles qui ont fait la une de l'actualité de la semaine. À la présentation, Franck Azé. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. L'impunité rend la situation des victimes de viol encore plus difficile. C'est le regret du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Maître Immaculé Hunja, président de ce mouvement, estime que le chemin est encore très long. Son ressentiment est d'autant plus justifié que selon elle, les instruments juridiques nationaux et internationaux sont clairs en la matière. Maître Immaculé Hunja a exprimé ce regret à l'occasion du lancement des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était dans une édition de la Synergie des médias.
Au Burundi, cette 30e campagne survient dans un contexte particulier de violations massives et continues des droits de l'homme en général, et celles des femmes et des filles en particulier, des violations qui sont devenues monnaie courante depuis la crise politique de 2015. Des femmes ont été violées, tuées, portées disparues, forcées à l'exil, tandis que d'autres ont vu leurs maris et femmes tués, torturés ou emprisonnés arbitrairement. Pour réprimer toute voix de citoyenne dissonante avec la gouvernance du parti au pouvoir, le viol des femmes, des filles et des hommes est et reste un outil de répression efficace. Le viol au Burundi est utilisé comme une arme de guerre, une arme peu chère, accessible et dévastatrice tant pour la victime que pour la communauté. Aucune catégorie de citoyens burundis n'est épargnée. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, simples citoyens, tout le monde y passe. En plus de ces violences liées à la crise politico-sécuritaire de 2015, les femmes sont aussi victimes des violences domestiques, conjugales, des violences verbales et psychologiques, ainsi que le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Les femmes en détention vivent dans des conditions d'hygiène déplorables, car les lieux de détention ne sont pas conformes aux normes internationales. Quant aux filles scolarisées, elles subissent le viol par des enseignants, avec souvent pour conséquence des grossesses non désirées et des renvois scolaires. Mais pourtant, les auteurs de toutes ces violences sont entre autres des agents en charge de la protection des citoyens, des policiers, des militaires, des Imbonerakure éparpillés sur toutes les collines du Burundi, des enseignants dans les établissements scolaires, des chefs d'entreprise, des responsables administratifs. Il est donc difficile d'évaluer avec précision l'ampleur de ces violences à l'égard des femmes et filles burundaises.
Un groupe de membres du parti CNL vient de passer 3 ans dans la prison centrale de Mimba. Pourtant, il y a une année, ce groupe a été blanchi par le tribunal. Dans ce groupe, un homme et son épouse sont objets de torture. Le chef de zone Mouira, Gédon Mitavavuma, est pointé du doigt pour le maintien en détention de ce groupe de membres du CNL. Le point avec Eddie Claude Ninahazwe.
Ce membre du parti CNL, au nombre de 26, sont locataires de la prison centrale de Mimba depuis l'an 2017, subdivisé en 2 groupes par rapport au chef d'accusation. Un groupe est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, un autre est accusé d'attenter à la vie du chef de zone Mouira, Gédéon Mitavuma, à la tête nommée Elmenejid de Wigirimana. Les habitants de la zone Mouira accusent leur chef de zone de réprimer les autres membres des partis d'opposition, ce qui explique le maintien en détention du membre du CNL malgré leur acquittement.
Ils ont été acquittés tous par le tribunal. Seulement, c'est Gédéon en compagnie d'un certain Amissi, qui est un ancien ambassadeur, qui ont refusé qu'il soit libéré. Ce sont eux qui ont refusé. Tous ont été acquittés par le juge. Ce sont ces 2 personnes qui restent un obstacle pour leur libération.
Cet acquittement des membres du parti CNL de la zone Mouila par la cour d'appel de Moura est identifié sous la copie du jugement RPCA numéro 14, jugement rendu le 31 octobre 2019. Le vendredi passé, un certain manager de Wigirimana et son épouse avaient été retirés de la prison pour être torturés dans les enceintes du service des renseignements Sizangagala au quartier 10, selon nos sources service des renseignements. Radio Nzamba a tenté de joindre le chef de zone Mouila, Gédéon Mitavuma. Il n'a pas voulu s'y exprimer.
Des prisonniers sont sortis des geôles pour être torturés en dehors de leur lieu de détention. C'est ce que dénonce une déclaration publiée ce vendredi par l'organisation Action chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT Burundi. Le texte s'appuie sur des exemples patents des prisons centrales de Mimba et de Muramvya. ACAT Burundi appelle le gouvernement à veiller au respect strict des droits des détenus et à identifier et sanctionner les auteurs de ces barbaries. Jean-Claude Niburumossi est chargé des questions juridiques au sein d'ACAT Burundi.
Au cours de ce mois de novembre 2020, ACAT Burundi constate qu'il se manifeste un phénomène inhabituel dans les établissements pénitentiaires de Bujumbura, de Muramvya, qui consiste à faire sortir les détenus de la prison par la force et des traitements inhumains et dégradants constitués d'actes de torture s'ensuivent. D'après les informations à notre disposition, ces détenus victimes de ces traitements inhumains sont sortis de leurs cellules par des responsables des établissements pénitentiaires et sont mis à la disposition des agents des services de renseignement qui, à leur tour, les dirigent vers des destinations inconnues où ils subissent des actes de torture. Les cas les plus récents sont ceux de Guilimana Hermenegilde et son épouse, tous détenus dans la prison de Mimba, qui ont été victimes lorsqu'ils ont été sortis et remis aux agents du service national de renseignement en date du 20 novembre 2020, ainsi que les cas de Ilan Bona, Jean de Dieu et Kwizera Isaac, tous détenus à la prison de Muramvya, qui ont été mis dans les mains du responsable du service national de renseignement à Muramvya, à la personne de OPC 1, Félix Serdani. En date du 19 novembre 2020. En ce qui concerne le cas de Guilimana Hermenegilde, celui-ci a été sérieusement torturé avant d'être retourné dans la prison de Mimba, où il a été placé dans une cellule en isolement dans un endroit communément appelé Kwisoko, tout près de l'endroit où loge le responsable du comité de sécurité en la personne de Milani Prosper, pour être bien surveillé. Ces actes barbares sont commis en violation des textes légaux et réglementaires régissant les établissements pénitentiaires, ainsi que les règles minima pour leur protection des détenus, sans oublier la loi pénale burundaise et les textes internationaux de protection des droits humains. Ces exactions aussi sont commises au grand jour et dans une totale impunité. Paradoxalement, le gouvernement ne cesse de clamer haut et fort qu'il respecte les droits de la personne humaine, tout en foulant au pied tous les rapports produits par les organisations de cadre international de protection des droits humains, lorsqu'il dénonce ces exactions qui se commettent au quotidien à toute impunité. Les auteurs de ces exactions sont surtout les agents du service national de renseignements qui dépendent directement de la présidence de la République du Burundi. Ils ne sont pas inquiétés, ce qui prouve à suffisance qu'ils bénéficient d'une complicité ou ajustent sur l'ordre des autorités au plus haut niveau. Et il est donc prié au gouvernement du Burundi, en particulier au ministère de la Justice, qui a les établissements pénitentiaires dans ses attributions, de se ressaisir afin de faire respecter les droits des détenus.
Certains réfugiés burundais se trouvant à Mulongwe en RDC qui souffrent de maladies chroniques font face à des problèmes d'accès aux soins et aux besoins vitaux comme la nourriture. L'association CBBDH Vicar, qui défend les droits des réfugiés, indique qu'en général, les réfugiés burundais en RDC font face à des ruptures de rations et de façon répétitive. Léopold Chirangabo, vice-président de cette association, exhorte le ACR de tout faire pour assister ces réfugiés, particulièrement ceux qui souffrent de maladies chroniques. Suivez-le.
Non seulement les réfugiés avec les maladies chroniques, mais aussi tous les réfugiés qui se trouvent au Congo mènent une vie très difficile. Ces réfugiés peuvent passer entre 3 et 4 mois sans avoir les relations. Exemple, dans le mois passé, nous avons dû adresser une correspondance au HCR au niveau national pour signaler ce mauvais traitement des réfugiés. Quant à nous, nous disons que si le HCR n'est pas en mesure de traiter bien les réfugiés, n'a qu'à signaler pour que les Nations Unies prennent d'autres stratégies. Tous ces problèmes sont pesés sur la tête des HCR, car c'est le HCR qui doit gérer toutes ces situations. C'est le HCR qui doit approcher d'autres organisations partenaires, que ce soit ceux qui sont chargés de la santé, de l'alimentation, comme par exemple le PAM. Nous demandons au HCR de se réveiller pour aider les réfugiés comme son engagement stipule. Faites tout possible pour que les droits des réfugiés soient respectés, notamment le droit de satisfaction des besoins de première nécessité, c'est-à-dire accès à la santé, de quoi manger. Nous demandons aussi au HCR de ne pas sommerer des politiques et des gouvernements.
Les réfugiés burundais se trouvant dans le camp d'Omtendeli en Tanzanie s'inquiètent suite à la décision du gouvernement tanzanien de les rassembler dans un même camp, solide Nduta, dès le début de l'année prochaine. Décision qui n'a pas été bien accueillie par les réfugiés burundais qui trouvent que cela est un autre moyen de vouloir les rapatrier contre leur propre gré. Écoutez un des réfugiés contactés par la radio Inzamba.
Nous avons mal accueilli cette décision parce que d'abord ces réfugiés vont commencer de nouveau la vie. Et pour commencer de nouveau la vie, c'est très difficile ici au camp des réfugiés. Et deuxièmement, le camp de Boussa, c'est un camp qui a de l'insécurité parmi les camps qui existent ici en Tanzanie. Donc, nous avons très mal accueilli cette décision.
Ce qui n'est pas bon est qu'ils vont être transférés sans qu'ils puissent récolter leur chambre. Ils vont recommencer la vie à nouveau. Nduta est un cas caractérisé par plusieurs violations des droits humains. Des femmes ainsi violées, on ne fait qu'une transférée dans l'enfer. Nous demandons avec instance que cette décision ne sera plus mise en application.
C'est un élément parmi les éléments qui causent et dans l'insécurité, encore qui causent de la torture, comme d'habitude, les Tanzaniens qui nous torturent.
Pour l'association CBBDH Vicar, cela est une suite des mauvais traitements que subissent les réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Selon l'association, rassembler les réfugiés dans un même camp n'a qu'un objectif, les forcer à retourner au Burundi. Pierre Buyoya, l'ancien président burundais, annonce qu'il va mener un combat pour sauver son honneur terni par la justice burundaise. Celle-ci, comme il le regrette, l'a condamné à perpétuité par contumace, sans aucun moyen de défense dans le dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Il a déclaré mercredi, dans une conférence de presse, il ne précise toutefois pas le pays dans lequel il va demander asile. Le point avec Emmanuel Ndayishimiye.
Condamné par contumace à la prison à perpétuité par la justice burundaise pour l'assassinat de son successeur, Melchior Ndadaye, en 1993, Pierre Buyoya, ancien président burundais, indique avoir démissionné de son propre gré au poste de représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel pour consacrer tout son temps à sa défense, laver son honneur terni par la justice burundaise.
Je suis un homme politique. Je sais que dans la politique, ce genre de situation arrive régulièrement. Je ne suis pas le premier à être dans cette affaire. Quand on a été dans la politique, on est aujourd'hui mis en prison, on est condamné, mais si on a la chance de vivre, ce qui est arrivé aujourd'hui, demain, ça va partir. Et je suis sûr que ce qui m'est arrivé va partir, mais il faut que je prenne le temps de m'en occuper.
Pierre Buyoya ne précise pas le pays dans lequel il va demander l'asile.
Je m'abattrai à partir de l'endroit où je pense qu'il est plus efficace de le faire concernant l'asile politique. Aussi, quand on est dans cette situation, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Si on demande l'asile politique, on le fait. Alors, je suis dans ce processus de réflexion. Il n'y a aucune décision prise à ce sujet.
Pierre Buyoya a été condamné à perpétuité pour attentat contre le chef de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et l'attentat qui tend à porter le massacre. Il a toujours crié fort que la justice burundaise a dressé des obstacles pour lui empêcher de faire valoir des moyens de défense. Il évoque ici le refus de visa à ses avocats étrangers, le refus aux avocats burundais d'accéder au dossier et enfin le refus de la greffe de réceptionner son dossier d'appel.
La voie pour des procès équitables avait été tracée par l'accord de paix d'Arusha. C'est le fond d'une déclaration sortie vendredi par la coalition de l'opposition CFOR Arusha, la coalition qui se base sur certains procès qui ont nourri l'actualité ces derniers jours. La CFOR Arusha estime que le chemin est encore long, aussi longtemps que la justice burundaise reste un instrument du pouvoir en place. C'est la fin de cette rétro de l'actualité de la semaine qui s'écoule. À toutes, à tous, rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de la rétrospective. D'ici là, portez-vous bien.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.